La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est sans doute dans le théâtre et avec le théâtre que Jean-Luc Lagarce a été le plus heureux. Fondateur très jeune de la Compagnie de la Roulotte, lors de ses études à Besançon, il a aimé accompagner les tournées tout au long de sa courte vie, qui prit fin en 1995 alors qu'il n'avait que 38 ans. Le portrait de Lagarce, c'est Jean-Pierre Thibaudat qui l'a dessiné pour nous au cours de l'émission d'hier. Elle est à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Sa vie, justement, c'est en lisant son journal qu'on la comprend le mieux. Et nous parlerons jeudi avec Marie-Hélène Boblé de cet ouvrage en deux volumes qui couvre la période allant de 1977 jusqu'à sa mort et qui est peut-être le vrai roman de Jean-Luc Lagarce, lui qui n'a jamais véritablement réussi dans ce genre. Et puis la veille, mercredi, nous nous serons intéressés à sa pièce « Juste la fin du monde » au programme cette année des Premières Générales en vue du bac de français. Nous parlerons aussi du film que le réalisateur Xavier Dolan en a tiré. Alexis Le Prince sera notre invité. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour évoquer la langue de Lagarce ainsi que les grands thèmes de son œuvre, nous sommes avec vous, Lydie Paris. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous entendez bien? Alors, vous êtes écrivaine, metteuse en scène, maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse, autrice de plusieurs essais sur le théâtre, comme par exemple « Les voix négatives dans le théâtre moderne et contemporain » que vous avez publié en 2019 aux éditions Minard, éditeur où vous avez aussi fait paraître « La parole trouée » Beckett, Tardieu, Novarina. Et puis vous êtes enfin l'autrice de « Lagarce, un théâtre entre présence et absence » paru cette fois chez Classique Garnier en 2014. Alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est peut-être que le théâtre de Jean-Luc Lagarce n'a pas de véritable intrigue, Lydie Paris, ou plutôt une intrigue qui se jouerait dans les mots, dans les phrases, entre même les dialogues.
Oui, c'est vrai que c'est le théâtre de Lagarce relève de ce qu'on pourrait appeler le théâtre de la parole, c'est-à-dire que c'est pas un théâtre qui repose sur le conflit. Le conflit a sans doute eu lieu avant dans les pièces, et l'enjeu véritable, il est dans ce qu'on pourrait appeler un drame du langage, dans la parole elle-même.
Donc on doit imaginer le conflit, on doit imaginer finalement ce qui s'est passé hors champ, ce qui s'est passé avant, peut-être ce qui se passera même dans l'après, ou ce qui se passe dans la pièce d'à côté.
Oui, le conflit fait toujours partie du hors-champ. C'est un petit peu, bon, on a ce système-là aussi dans les pièces de Beckett qui sont une sorte de rémanence d'une catastrophe qui a déjà eu lieu avant, et on a ça aussi chez Lagarce, enfin dans un certain nombre de pièces.
Pourquoi est-ce que ça ne l'intéresse pas finalement de montrer ce conflit? Pourquoi est-ce que finalement il le met justement hors de l'espace de ce qui est raconté?
Je crois que ça nous ramène à l'histoire du théâtre, notamment Lagarce s'est beaucoup inspiré, ben, comme tout le monde le sait, du théâtre de l'absurde, bien sûr, qui mettait à distance aussi ces notions-là, c'est un théâtre uniquement qui est de... La théâtralité, c'est le langage lui-même, mais on a ça aussi dans le nouveau roman, qui est une autre source d'inspiration de Lagarce. Et c'est important, cette idée de mettre à distance le conflit. Alors après, il y a une autre inspiration aussi qui remonte un petit peu plus loin, qui remonte à la fin du 19e, qui est le théâtre statique. Bon, on a souvent parlé des rapports qu'il y a entre Tchekhov et Lagarce, notamment, mais aussi il y a Ibsen, il y a Strindberg, il y a aussi Maeterlinck. Et là, on est dans un théâtre où ce n'est pas le conflit qui est la base, mais c'est le drame du langage lui-même, voilà, on a appelé ce théâtre-là le théâtre statique.
Et aussi le théâtre de la conversation, parce qu'on peut dire que chez Lagarce, ça parle. Évidemment, ça parle dans toutes les pièces de théâtre, enfin dans la plupart des pièces de théâtre. Mais là, ça parle et c'est la parole qui compte.
Oui, oui, c'est ça. C'est uniquement un théâtre qui est fondé sur la parole, parce que l'enjeu de ce théâtre, c'est la parole elle-même. Qu'est-ce que c'est que la parole et qu'est-ce que c'est que la parole théâtrale? Qu'est-ce que c'est que la parole aussi à l'intérieur du langage?
Alors, malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a, pas vraiment des histoires, mais en tous les cas, que ces pièces ne racontent pas quelque chose? On a le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui se noue entre les personnages.
Oui, c'est vrai que, de toute façon, il y a des leitmotivs qui se trouvent un petit peu dans toutes ces pièces. Par exemple, le leitmotiv du trio amoureux, hein. Il y a aussi le leitmotiv du retour du fils prodigue, il y a des leitmotivs comme ça qui parcourent ces pièces, ça raconte quelque chose, mais il y a aussi, que, si vous voulez, ça raconte aussi, ça raconte des histoires d'amour, ça raconte de la violence qui a pu avoir lieu, toujours dans un cadre de huis clos, hein, c'est-à-dire comme dans le théâtre statique de la fin du 19e siècle, on est dans le huis clos, soit le huis clos du couple. Alors chez Lagarce, c'est le couple élargi, hein. Ça peut être 3 personnes, ça peut être jusqu'à 8, hein, dans la photographie. Enfin, je dis pas que c'est un couple de 8 personnes, mais c'est un groupe de 8 personnes avec des enchevêtrements de relationnels, amoureux, un petit peu compliqués. Et oui, si vous voulez, il y a quand même des enjeux qui sont des enjeux d'ordre dramaturgique, quoi. Il s'est passé des choses. Il y a eu de la violence dans le couple ou dans la famille. Il y a quand même une violence qui est là.
Il y a quelque chose d'étouffant justement dans ce huis clos et notamment dans les huis clos familiaux de Jean-Luc Lagarce, Lydie Paris.
Sans doute, oui. On pourrait voir les choses comme ça, mais. C'est certain. Bon, si on regarde, j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Ces 3 sœurs qui sont en train de parler du retour d'un frère qui est parti à la guerre, on ne sait pas. Enfin, qui est un espèce de voyageur qui n'a pas d'âge et qui disparaît à l'étage. On ne sait pas trop s'il va mourir. On ne sait pas tout ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étouffant, sans doute, mais de même dans Juste la fin du monde, l'histoire du garçon qui va retrouver sa famille pour leur dire qu'il va mourir, c'est quelque chose d'un peu... Il y a un huis clos étouffant, parce qu'ensuite, il va être pris par cible, par ses proches, qui vont lui reprocher de les avoir abandonnés. C'est vrai qu'il y a un côté étouffant, mais... Enfin, je suis beaucoup en ce moment dans Juste la fin du monde parce que je viens de faire une conférence de 2h30 auprès des enseignants de l'Académie de Versailles et je suis beaucoup prise dedans. Ça fait 15 jours que je travaille dessus. Je suis en train d'écrire un livre sur Juste la fin du monde à l'usage des enseignants.
Donc, c'est l'année où il faut en parler. Et d'ailleurs, on en parlera aussi, nous en particulier, dans l'émission de demain. Avant cela, je propose d'écouter une première archive de Jean-Luc Lagarce au micro de Lucien Atoun. C'était en septembre 1995.
Je me suis souvent demandé pourquoi écrire du théâtre et pas écrire autre chose en même temps. Je me suis souvent demandé, mais c'est une question qu'on vous pose. Puis si vous écrivez, pourquoi vous n'écrivez pas un roman? D'autant plus que les romans sont peut-être plus facilement publiés, lus que le théâtre. C'est quand même un peu particulier d'écrire du théâtre en France. Puis on n'a pas beaucoup joué, même si je ne suis pas un auteur malheureux, mais c'est quand même un peu plus confidentiel. Donc pourquoi pas essayer de faire autre chose? Alors d'abord, j'ai essayé de faire autre chose souvent, et puis ça ne m'a pas forcément... Enfin, c'est pas que ça ne m'a pas forcément réussi, j'en sais rien, c'est que je n'ai pas abouti. Donc de toute façon, c'est que c'était... De moi-même, je savais que ce n'était pas forcément ma voix. Ça m'arrive encore de travailler sur des choses non théâtrales. Pourquoi on écrit du théâtre? Je sais pas. Il y a un rapport à la parole,
non,
à la langue.
Non, le on, comme vous êtes
oui.
un très
non, bon non, acteur, pourquoi on, je, c'est un pourquoi je, voilà. Non, non, le théâtre, en même temps, c'était, je crois que j'avais envie, puis je m'aperçois que c'est pour ça que je continue à essayer d'en écrire, c'est que c'était comment les gens parlent, comment la langue, comment le son, choses comme ça. Quand vous lisez un livre, d'ailleurs, en même temps, je m'aperçois que j'aime bien les écrivains, les romanciers, qu'on pourrait lire à voix haute.
Par exemple.
je sais pas, avec Proust, c'est lisible comme ça. Enfin, plein d'écrivains. Thomas Bernard, d'ailleurs, il a écrit beaucoup de théâtre, mais les romans sont à la limite, on a l'impression qu'on pourrait aller sur le plateau avec. Ça s'est fait plusieurs fois, d'ailleurs. C'est assez logique. Donc, j'aime ça. Et je crois qu'au théâtre, ce qui m'importe, c'est ça, c'est comment les acteurs vont dire les choses. Le son, le rythme.
Des œuvres sur France Culture. Il s'agit surtout donc de dire, de prononcer le théâtre. C'est la langue qui est au centre du théâtre de Lagarce. Il faut dire, Lydie Paris, que selon Lagarce, tout a déjà été dit. Il n'y a pas de thème nouveau finalement, et le poète ne doit pas s'intéresser au thème. Il se préoccupe uniquement de la forme. Il va au centre de la langue elle-même. C'est cela, Lydie Paris?
Oui, c'est bien ce qu'il dit toujours. Alors, j'ai bien aimé ce que vous avez donné comme document sonore, cette idée qu'il écrit en fonction du son, du rythme, et que finalement, cette notion du son et du rythme transcende les genres connus qui sont le théâtre, la poésie, le roman. Ça transcende ça parce que on écrit pour les oreilles, on écrit pour écrire pour les oreilles, c'est vraiment ça qu'il pratiquait, c'est-à-dire c'est chercher à travers l'écriture l'oralité du langage. Et l'oralité du langage, c'est le théâtre. On pourrait dire que le théâtre est une modalité de la langue, enfin une modalité de la parole qui ça transcende les notions de genre. C'est pour ça que on peut faire théâtre de tout, d'ailleurs. Hein, c'est un petit peu ce qu'il disait dans dans son intervention.
On sent le
théâtre de tout, comme le disait Antoine Vitez. Hein.
Pardonnez-moi. On sent le plaisir du rapport à la prononciation des mots. Est-ce que vous diriez que le théâtre de Lagarce, c'est un théâtre justement sensuel? Les acteurs, parfois, qui l'ont joué, disent qu'ils ressentent cette musicalité de la langue et en effet, ce plaisir des sens qu'il y a à être sur scène, à dire le théâtre de Lagarce.
Oui, mais en même temps, c'est quand même une langue difficile aussi pour l'acteur. Il faut gérer ce rythme. Et puis, la question qui se pose aussi, je pense, c'est celle de l'adresse, quoi. Parce que il y a plusieurs modalités de l'adresse possible dans la langue aussi de Lagarce. Il y a la rythmique, il y a tout ça. Puis en même temps, il y a comment est-ce qu'on gère toutes ces incises qui se superposent. Il y a plein de couches de sous-textes, d'infra-textes. Enfin, je sais pas. Qui se superposent, et ça, comment le prendre? Alors, je pense que il y a un metteur en scène qui savait très bien parler de ça, c'est Jean-Charles Mauveau qui dit que pour lui, il y a une parole intérieure, c'est comme si c'est comme si dans le théâtre de Lagarce, on se parlait à soi-même, à l'intérieur de soi, comme si quand on cherche ce qu'on va dire, qu'on y va en plusieurs couches. Hein. Et je crois que cette notion de parole intérieure, moi, me parle beaucoup.
Est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monologues dans le théâtre de Lagarce?
Bien sûr, mais alors la question des monologues. Monologue, c'est encore une question qui peut se diviser en sous-questions, parce qu'il y a les monologues, les vrais monologues, c'est-à-dire le statut du monologue, c'est de s'adresser, on se parle à soi-même, hein, bien sûr, c'est la parole intérieure, mais qui est adressée uniquement au public, parce qu'on est tout seul sur scène à ce moment-là. Mais il y a aussi les quasi-monologues. Alors, on a ça beaucoup dans Juste la fin du monde. C'est-à-dire que c'est un personnage qui prend la parole brutalement, qui s'accapare, on peut dire, la parole, face à un autre personnage qui est sur scène. Enfin, un ou plusieurs. Et c'est une manière de lui couper la parole. Mais en même temps, c'est une manière de parler dans l'urgence, sous menace d'être aussi interrompu, sous menace peut-être d'être jugé aussi par la personne qui écoute. Enfin, si vous voulez, le quasi-monologue, c'est une espèce de monologue en tension par lequel eh bien, on menace l'autre et on peut être menacé de l'autre. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre.
Si, parfaitement, mais ça fait penser à cette idée qu'on développait hier de la solitude de Lagarce et dans cette succession de monologues en présence d'autrui, c'est-à-dire, comme vous le dites, d'espèces de monologues, de semi-monologues, on a l'impression de l'incommunicabilité qui est tout à fait bien mise en scène, je crois, enfin tout à fait bien explicité par Lagarce. Est-ce que vous souscrivez à cela, Lydie Paris ?
Pas du tout, non.
Pas du tout, non. Alors expliquez-moi.
Non. non, je crois que, en fait, il y a chez Lagarce surtout l'importance de la voix de l'auteur. Alors, je crois, ça, c'est quelque chose qui nous vient aussi du théâtre statique de la fin du 19e. C'est-à-dire, bon, on trouve ça chez Villiers de l'Isle-Adam aussi. J'en profite pour en parler parce qu'il est assez peu connu. C'est un dramaturge que j'adore.
Vous avez écrit aussi sur Villiers de l'Isle-Adam.
Oui, il a écrit là. C'est lui qui est quand même l'auteur de La Révolte, hein, qui est une pièce très souvent jouée. Et, comment dire, l'auteur est important, l'auteur prend toute la place. La voix de tous les personnages, c'est la voix de l'auteur. Et c'est la dimension, on pourrait dire, lyrique, quelque part, du théâtre de Lagarce. Il y a une voix intérieure qui est présente et qui se balade chez tous les personnages. Si vous voulez, il y a une continuité, quelque part, la continuité d'une voix. N'importe quel personnage, quelle que soit son origine sociale, parle de la même façon. Mais en même temps, si vous voulez, la notion d'incommunicabilité, oui, enfin bon, moi je...
Vous n'êtes pas pour, je sens ça.
Non, mais ça ne m'intéresse pas, à vrai dire, voilà. D'accord. Plus exactement.
Mais vous ne la retrouvez pas dans son théâtre, pas du tout.
Mais non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'on est dans, si vous voulez, comme on n'est pas vraiment dans la notion du conflit, le conflit, il est pas seulement entre les personnages eux-mêmes, il est à l'intérieur du langage, de l'outil, si vous voulez, de l'outil. C'est-à-dire, il y a cette idée que le langage n'est pas adéquat, qu'on ne peut pas tout faire rentrer dedans, que...
Et que du coup, on ne peut pas se parler, ni se comprendre, ni communiquer.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, à l'intérieur de soi-même, on ne trouve pas les mots pour faire le tour de sa propre expérience, de son rapport au réel, de ce qu'on est. Et en même temps, quand il faut parler à l'autre, en plus, il y a toujours une transcendance quelque part. Il y a des choses qui ne se disent pas. Bon, je parle de transcendance familiale, notamment. Des choses qui ne se disent pas, des choses qui sont tabous, qui vont encore obscurcir la communication. Mais je crois qu'au départ, si vous voulez, la communication, c'est quelque chose qui ne se fait pas déjà entre soi et soi à travers le langage. Et... il fait partie, je crois, Lagarce, de ces écrivains qui sont sceptiques aussi par rapport à la langue. Si vous voulez travailler la langue, écrire, c'est déjà se poser la question de l'outil qu'on utilise. Et il n'y a pas chez Lagarce cette illusion, si vous voulez, d'un outil, enfin d'un langage qui pourrait être transparent. Voilà, qui pourrait dire les choses. Voilà, pour lui, si le langage est transparent, eh bien, c'est qu'on est dans le mensonge, on est dans la tricherie, on est dans la manipulation, alors qu'elle soit médiatique, qu'elle soit affective, qu'elle soit politique, qu'elle soit même littéraire. Enfin, pour lui, c'est tricher.
Ce fut une journée formidable. La campagne, l'air de la campagne, le jardin, les petits oiseaux. Vivifiante, une journée très vivifiante.
Eh bien, je vous dis au revoir. Et j'étais très heureux de vous rencontrer et faire votre connaissance.
Ah oui, excusez-moi. Au revoir. Vous repartez immédiatement, oui ?
Bah, je retravaille demain.
Ah, faites attention sur la route.
Eh bien, je vous dis au revoir. Et j'étais très heureux de vous rencontrer, faire votre connaissance.
Oui, moi aussi. Hélène n'est pas là ? Où est-elle ? Elle n'a pas dit au revoir, je me trompe, elle n'a pas dit au revoir à personne. Elle dit ta gueule à tout le monde, mais au revoir à personne. Elle aurait pu dire au revoir. Elle t'a dit au revoir ?
Oui, elle me l'a dit tout à l'heure.
Je suis sûr que non. Tu restes comme ça, un chien battu, mais elle ne t'a rien dit.
Elle est un peu fatiguée et nous devons encore faire de nombreux kilomètres. Le périphérique en soirée, vous ne connaissez pas ça, mais... Ben bon, ben j'ai été très heureux de vous rencontrer. Là, tous, de faire votre connaissance. Dis-leur au revoir, Lise.
Non, mais elle me l'a dit, c'est pas un problème. Allez, nous partons.
Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir et au revoir.
Goodbye, my love.
Vous avez peut-être reconnu les interprètes Claude Rich, Sylvain Joubert, Hélène Vallier, Lydie Paris, interprète de cet extrait de Dernier remords avant l'oubli. J'aimerais bien que vous nous le commentiez, et peut-être en particulier le caractère très mécanique de la conversation qui se joue entre les différents personnages, la manière de dire au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Peut-être que c'est un peu un exemple de ce que vous nous expliquiez avant cet extrait, Lydie Paris.
Oui, oui, c'est vrai que ça fait écho tout à fait à ce qu'on se disait avant. Je crois que dans cette fin de Dernier remords avant l'oubli, c'est une fin qui n'en est pas une. Alors il y a la volonté de clore parce que il y a cette difficulté toujours à finir chez Lagarce, à commencer et à finir.
D'ailleurs, pourquoi il y a cette difficulté?
Mais en fait, si vous voulez, ces pièces sont une sorte de phrase ininterrompue qui continue. Les pièces se continuent d'une pièce à l'autre. Il y a une sorte de refus de l'achèvement. D'ailleurs, Dernier remords avant l'oubli va se retrouver par la suite, parce que dans juste la fin du monde, on a des choses qui continuent. Et alors là, il y a c'est assez comique et en même temps tragique, cette interruption brutale de la pièce par les protocoles du au revoir, au revoir, au revoir. Et en fait, c'est une manière aussi de mettre fin à une certaine douleur qui est exprimée par le personnage d'Hélène. Parce que Hélène, si elle a disparu, là, c'est aussi qu'elle ne pouvait pas assumer ce qu'elle avait vécu, l'expérience amoureuse qui fait le sous-texte, qui est évoquée dans cette pièce-là, l'expérience amoureuse à trois, où le personnage d'Hélène, c'est un personnage récurrent dans les pièces de Lagarce, elle nous rattache au thème de l'excès d'amour, c'est-à-dire de l'amour, les personnages qui aiment trop, quoi. Les personnages qui... L'excès d'amour, en fait, ça pose la question de l'adresse, de l'amour à qui, de l'objet d'amour, c'est-à-dire quand on aime, qui, enfin, est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un, est-ce que ça peut s'adresser à quelqu'un? Et qu'est-ce qu'on fait si l'objet de l'amour ne répond pas de manière, ne répond pas à son amour. Donc la question de l'excès d'amour. Moi je dirais que chez Lagarce il y a beaucoup la question de non pas de l'amour mais de l'excès d'amour.
Oui. Et, vous parlez de l'excès de l'amour. Vous parlez aussi de la perte de soi. Alors ça n'est pas exactement la même chose, mais je sais que vous tenez beaucoup à cette expression. Est-ce que vous pouvez l'expliciter pour nous?
Oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut le rejoindre d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez, ce qui m'a frappé quand j'ai lu l'œuvre de Lagarce, quand j'ai commencé à écrire dessus, a vraiment m'y intéressé de près, c'est que ça rejoignait bien sûr des préoccupations qui me sont personnelles dans mon activité de chercheuse. C'est la question de la perte de soi. Pourquoi? Parce que tout simplement, je m'intéresse beaucoup à l'écriture, c'est-à-dire aux écrivains qui parlent de leur écriture, dont l'objet finalement de l'œuvre, c'est aussi de parler de l'écriture. Et Lagarce fait partie de cela.
Mais qu'est-ce que c'est se perdre soi? Qu'est-ce que c'est la perte de soi, Lydie Paris?
La perte de soi, c'est déjà quelque chose qui est inscrit dans l'écriture. C'est-à-dire, je crois qu'il y a chez Lagarce, quand il parle de l'écriture, c'est un petit peu un exercice de perdition. Enfin, quelque part, c'est, C'est un exercice d'effacement de soi. Il s'agit d'être quelqu'un d'autre par l'écriture, mais de perdre un peu ses attributs. On pourrait parler d'un personnalité, enfin de dessaisie en tout cas de soi. Et ça, c'est quelque chose qui marque l'écriture de Lagarce, mais ça marque aussi les relations entre les personnages. Parce que ce que j'ai remarqué dans ces pièces, qui parcourent ces pièces, c'est la prééminence de trois mots qui sont très importants. C'est l'impuissance, qui fait partie d'ailleurs, enfin qui a donné son titre à un de ces volumes, qui s'appelle Du luxe et de l'impuissance. Il y a le renoncement, et puis l'abandon. Hein, donc c'est vraiment les trois mots qui sont beaucoup usité par les personnages. Les personnages se plaignent tout le temps d'être abandonnés chez Lagarce. Et en même temps, l'impuissance, c'est quelque chose qui renvoie à l'activité de l'écrivain, parce qu'il y a aussi cette idée de l'échec. Chez Lagarce, il y a beaucoup d'écrivains qui sont mis en scène, des figures d'écrivains. Bah, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Dernier remords avant l'oubli. Il y a Pierre, qui est une sorte d'écrivain raté, qui écrit des poèmes, qui les laisse dans un tiroir. Ici ou ailleurs, il y a aussi un écrivain qui rend une page blanche à un exercice d'écriture. Dans Juste la fin du monde, Louis, c'est quelqu'un qui écrit, hein, c'est bien dit à la scène 3. Mais bon, il n'est peut-être pas très connu. Il y a aussi la pièce qui est inspirée de Kafka, Nous les héros, il y a aussi un écrivain. Puis surtout dans Histoire d'amour, les deux versions, il y a aussi un écrivain qui écrit. Donc c'est important, cette idée de l'impuissance qui est revendiquée. Parce qu'ils écrivent, ils souvent ratés, et en plus, ce sont tous des écrivains qui sont frappés d'impuissance parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec les autres. Ils arrivent à écrire, mais ils n'arrivent pas à communiquer avec les autres.
Ah, donc le thème de l'incommunicabilité revient par la fenêtre. Se perdre dans l'errance, c'est peut-être aussi quelque chose qui permet ce que vous disiez à l'instant, Lydie Paris, la perte de soi. Je vous propose d'écouter à ce sujet une nouvelle archive.
Il y a aussi autre chose chez vous, c'est l'errance. C'est-à-dire que les gens avancent, soit vers le passé, soit vers l'avenir, ils marchent, ils voyagent. Le voyage est quelque chose...
Oui, je sais pas, on me dit souvent ça, alors moi ça m'inquiète un petit peu. Dans Les Serviteurs, ils marchent pas du tout. Ouais. Bon, il se trouve que dans Neu, je me disais, ils marchent pas, mais en fin de compte, apparemment, ils marchent beaucoup, fatalement. Mais à nouveau, dans La Peste, ils marchent. C'est que je suis en train d'écrire là, pas du tout du théâtre, mais un roman, et je m'aperçois qu'en effet, les gens marchent beaucoup. Bon, je sais pas, c'est peut-être... Mais je suis pas si conscient que ça du thème. Enfin,
non, mais c'est peut-être évident. Un thème de l'errance, quand même,
oui.
Non.
Oui, parce que je crois aussi que c'est...
Encore une fois, la roulotte, ce n'est pas un hasard.
Oui, ce n'est pas un hasard non plus. Ça me paraît être un bon point de départ pour parler de problèmes bien précis. C'est-à-dire qu'on aurait du mal de parler de problèmes concernant, disons, le monde entier. Enfin, si les gens étaient bien installés, bien placés quelque part. Ce serait un regard un peu caricatural, je crois, vite fait.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Vous avez beaucoup marché aussi, Lydie Paris, en rédigeant votre livre sur Lagarce. Vous avez erré aussi dans la ville, la nuit, comme lui.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'était un très beau passage. Il y a beaucoup d'extraits chez Lagarce, de scènes qui ramènent à une errance comme ça. Mais je crois que cette errance, elle prend aussi la forme d'une recherche, parce que ce qui était beau dans ce qu'il a dit, c'était la question de la place, de trouver sa place, la question aussi de trouver le centre pour regarder le monde.
C'est un égaré.
D'où je pars. Oui, c'est un faux égaré, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche un centre, quoi. Il le disait d'ailleurs dans une citation que vous avez donnée juste avant, cette question de la recherche d'un centre. Et ce qui est beau dans cet extrait, c'est que il y a cette idée de l'errance qui ramène à la notion de chemin, de chemin, mais aussi de dénuement, quoi. Ça nous ramène à la perte, hein, tout à fait. Hein, cette question du dénuement, c'est-à-dire être en mouvement, c'est aussi abandonner un certain nombre de protocoles, c'est-à-dire quelque part se mettre à nu ou aller vers l'abandon. Parce que, bon, cette notion de l'abandon que Lagarce a remise au goût du jour dans son œuvre, c'est une notion qui appartient au domaine spirituel, qui, chez Maître Eckhart, c'est la Gelassenheit, notamment. C'est cette façon de... c'est une définition de la liberté, c'est-à-dire être sans protocole, c'est-à-dire c'est un regard, essayer de trouver le regard juste sur le monde. Quoi. Mmh.
On se souvient aussi qu'il a adapté le roman de Crébillon fils, Les engagements du cœur et de l'esprit. Il y a le mot égarement, là encore. Donc il va chercher assez loin cette thématique de l'égarement et jusque dans le XVIIIe siècle.
Oui, surtout que c'est un ouvrage absolument génial, cette œuvre de Crébillon d'ailleurs, qui annonce Proust même, hein, c'est cette question de l'identité qui se perd, mais l'identité en mouvement, avec l'importance du langage aussi. C'est vrai que c'est une œuvre très importante.
Vous pensez que le 18e, pour lui, on se rappelle que on a expliqué hier qu'il avait voulu faire une thèse sur Sade, vous pensez que le 18e était très important? Parce que tout à l'heure, vous avez plutôt cité des auteurs, des dramaturges de la fin du 19e, Tchekhov notamment, mais le 18e
Je ne sais pas, je sais que s'il voulait faire une thèse sur Sade, c'est parce qu'il avait été... complètement fasciné par l'ouvrage que Barthes avait fait sortir sur Sade, Loyola et Fourier. C'était un livre qui l'avait fasciné. Hein. Et d'ailleurs, quand il parlait de Loyola, Barthes, d'ailleurs, dans ce livre, il parlait des origines du théâtre et il disait que le théâtre, c'est illimité le langage.
Ben c'est pas étonnant qu'il s'intéresse à Barthes et qu'il soit lecteur de Barthes, parce qu'il y a un côté un peu sémiologue chez Lagarce, lui qui parlait peut-être moins de livres que de textes, par exemple, un peu comme dans les années 70, Barthes parlait aussi du plaisir du texte plutôt que de parler des livres.
Oui, tout à fait. Bon, c'est toute cette période du structuralisme, de tout ça, mais en même temps. En ce qui concerne le langage lui-même, je crois que Lagarce se place un petit peu aussi dans la suite de travaux de quelqu'un qui s'appelle Georges Steiner. C'est un linguiste et écrivain qui est mort cette année et qui avait parlé de notre époque comme d'une époque de la crise du langage qui a démarré donc pour lui à Auschwitz et qui continue aujourd'hui et qui affecte... Tout le langage qui nous entoure, hein, des médias, mais le langage, toute forme de langage, mais qui est pour lui lié à une crise de l'humanisme. Et je crois que Lagarce, de toute façon, comme il aimait Ionesco aussi, il aimait Beckett, et qui s'intéressait aussi à des théoriciens du langage. Je pense aussi à, par exemple, Fritz Mautner, qui a beaucoup influencé Beckett. Et voilà, c'est pour revenir sur cette notion.
Mais alors, s'intéresser d'abord au langage, s'intéresser davantage aux signifiants qu'aux signifiés, est-ce que ça ne conduit pas à s'extraire un peu du monde ?
Mais je crois que c'est Beckett lui-même qui disait que... que écrire, c'est un exercice de solitude et qu'on peut pas faire autrement. Mais c'est la position d'entre-deux qui est intéressante. C'est vrai que moi j'ai lu son journal. Enfin, j'aime beaucoup le journal de Lagarce et c'est vrai que toutes les notations sur la solitude sont très importantes. C'est la solitude, la question de la solitude parmi les autres. C'est-à-dire que c'est une attitude. La solitude parmi les autres, une position détachée d'entre deux.
On va écouter une nouvelle archive et puis on va vous retrouver juste après Lydie Paris.
J'étais là debout et j'attendais que la pluie vienne, qu'elle tombe sur la campagne, les champs et les bois, et nous apaise. J'attendais. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu ? Et dans ma tête encore, je pensais cela. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu ? Et cela me fit sourire de me voir ainsi. Je regardais la route et je songeais aussi, comme j'y songe souvent le soir, lorsque je suis sur le pas de la porte et que j'attends que la pluie vienne, je songeais encore aux années que nous avions vécues là, toutes ces années ainsi, nous, vous et moi, toutes les cinq, comme nous sommes toujours et comme nous avons toujours été, je songeais à cela, toutes ces années que nous avions vécues et que nous avions perdues, car nous les avons perdues, toutes ces années que nous avions passées à l'attendre, celui-là. Le jeune frère, depuis qu'il était parti, s'était enfui, nous avait abandonnés, depuis que son père l'avait chassé. Aujourd'hui, ce jour précis, je pensais à cela, en ce jour précis, je pensais à cela. Toutes ces années que nous avons perdues à ne plus bouger, à attendre donc. Et là encore, peut-être, je me mis une fois de plus à sourire de moi-même, de me voir ainsi, de m'imaginer ainsi. Et de sourire ainsi de moi-même me mena vers le bord des larmes, et j'eus peur d'y sombrer.
Extrait de « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne », lu par Valérie Lang. Il y a la solitude, donc, dont vous parliez à l'instant, Lydie Paris. Il y a le motif de l'attente, le motif de l'espoir déçu, comme dans cette pièce dont on vient d'écouter un extrait. C'est un thème un petit peu connexe.
Oui, ici, il y a le rapport à l'absence dans cette pièce, quoi, surtout, c'est que il n'est question constamment que d'un personnage hors scène, et un petit peu comme dans le théâtre classique, le hors scène est traité sur le mode du récit, c'est-à-dire que on parle de celui qui n'est pas là, on le fait exister à travers l'étoffe des mots, et ce frère-là qui va revenir, on ne sait pas exactement s'il revient d'ailleurs. Mais en tout cas, on est ici à un seuil. Ce qui est intéressant, je trouve que ce qui est bien rendu dans la manière de, enfin dans ce passage, c'est la question du seuil, quoi. On a vraiment une situation sur un seuil. La sœur qui est au seuil de la porte et qui attend ce frère qui est au seuil de la vie ou de la mort. Dans un temps qui a explosé quelque part, on ne sait plus si c'est vraiment dans quel temps on est. Et j'aime beaucoup cette pièce d'ailleurs. Hein. Elle parle de l'absence, elle parle de la présence et de l'absence.
On ne sait pas où on est. Le temps, en effet, est un petit peu insaisissable comme ça. Et d'ailleurs, Lagarce utilise beaucoup de mots comme ici, là, là-bas. Mais on ne sait jamais très bien où on est. D'ailleurs, on ne sait jamais très bien avec qui on est. Parfois, les personnages ne sont pas nommés ou ils sont toujours nommés par le même prénom d'une pièce à l'autre. Donc, il y a quelque chose d'un peu insaisissable, d'un peu étrange aussi.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une étrangeté de cette pièce, mais en même temps, ces trois femmes qui parlent, qui sont trois sœurs, elles sont quand même toutes, elles ont quand même toute une personnalité différente.
Je parlais en fait aussi en général hein, dans le théâtre de Lagarce, mais on peut prendre cet exemple-là plus particulièrement.
Je crois que les identités des personnages, elles sont fluctuantes, mais elles s'enrichissent d'une pièce à l'autre. Mais on a quand même une création de personnages. Par exemple, là, j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. On a quand même trois identités, trois personnes, et trois personnages différents. C'est trois femmes qui vivent seules dans un village, qui n'ont pas fait leur vie et qui attendent que le frère revienne.
Mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fait leur vie finalement ? Qu'est-ce qui les en a empêchées ?
On ne sait pas, il y a comme un aspect un peu métaphysique de un contenu comme un peu métaphysique de l'identité de ce frère. On ne sait pas si on a Ce retour du fils prodigue qui sera jamais accueilli, du sauveur qui vient peut-être sauver mais qui ne sauvera personne, du voyageur mais qui ne voyage plus. On ne sait pas si c'est un guerrier non plus. Enfin, c'est très très étrange, oui. Mais en tout cas, il y a vraiment la vie s'est arrêtée, le temps s'est arrêté, ces femmes se sont arrêtées.
Et alors, on ne va évidemment pas calquer de biographique là-dessus, mais pourquoi, selon vous, Lagarce était-il obsédé par ce thème du fils prodigue, du fils parti, du fils qui revient ?
Mais je pense que ça doit être lié à un certain nombre d'admiration littéraire qu'il peut avoir, peut-être, parce que c'est vrai que si je pense à Peter Hank, hein, qui quand même revient souvent enfin, il aime quoi. Hein, Peter Hank, il n'est pas le seul, hein, moi aussi. Et mais c'est vrai que dans Par les villages, notamment, Peter Hank évoque le retour aussi d'un fils dans son village natal. Il revient pour régler une affaire d'héritage et puis il revient dans son milieu ouvrier, c'est-à-dire c'est un transfuge. Et c'est là qu'ensuite il va abandonner, il va renoncer à son héritage, parce que lui, c'est un écrivain par contre qui a réussi, et il n'a peut-être pas besoin de sa part, et comme ses frères et sœurs sont ouvriers, il va leur laisser leur part. Et c'est assez beau ce livre, enfin cette pièce Par les villages, où le village sert un peu de cadre à une sorte de parabole de l'humanité entière.
La question de l'écriture était au centre de ses préoccupations. Il expliquait très bien ce que c'était sa position d'auteur, c'est-à-dire cette idée de comment aujourd'hui on écrit dans le monde, enfin en tout cas comment on écrit aujourd'hui par rapport à l'histoire du théâtre. C'était pour lui une chose très très claire, et que la question de la forme était primordiale. C'est-à-dire que derrière Beckett et Ionesco, comment on écrit à la fin du XXe siècle du théâtre ? Voilà. C'est quoi aujourd'hui du théâtre sur scène ? C'est-à-dire que même quand il n'écrivait pas, il réfléchissait à ce qu'il écrit. Et de toute façon, c'est lui qui disait ça. Hein. C'est qu'une pièce, elle s'élaborait déjà dans sa tête. Et quand il l'écrivait, c'est comme si elle n'était déjà pas finie. Mais l'idée était déjà bien avancée, la forme, etc. Et donc, puisqu'en fait, il y a l'histoire d'amour. Cette pièce, Jean-Luc dit, au fond, les gens y croient que c'est une histoire d'amour, enfin bon, comme on veut, mais c'est une pièce surtout qui explique comment on écrit. Il dit comment moi j'écris. Voilà. Et donc, quand il marche, l'histoire se construit peu à peu dans sa tête, et après il retourne l'écrire.
Le premier homme. Je veux écrire un livre sur cette histoire. J'en avais le projet. Tout le temps que je devrais désormais rester seul. Et tu peux pas savoir ce que j'ai peur. Le temps que durera la séparation des deux hommes et de la femme, chacun parti de son côté. Tout ce temps, je le consacrerai à ce livre. Histoire d'amour, c'est le titre. Histoire d'amour, cela sera le récit de ce qu'ont été nos vies, comme je les vois maintenant, avec le recul, comme je ressens les choses aujourd'hui. Ce que nous vivions avant, auparavant, tous les trois ensemble. Je dis cela au moment où nous nous sommes quittés. Je dis cela que je voulais me mettre à l'œuvre, et nous verrons bien, à notre retour quand nous aurons moins mal, et ce que cela sera. Un livre, une chanson, un titre encore, seulement un titre jeté en l'air et sans importance. Histoire d'amour, plus tard cela fut aussi une lettre que je voulais vous envoyer, que je souhaitais vous écrire et que, sans cesse, sans le vouloir, par peur ou par lâcheté, j'abandonnais. Histoire d'amour, aussi, c'est une lettre.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
On vient d'entendre d'abord un entretien de Joël Gaillot avec François Béreur, le grand ami de Lagarce, suivi d'un extrait de la pièce Histoire d'amour qui était interprétée par André Marcon. Alors Lydie Paris, c'est quoi cette pièce pour vous, Histoire d'amour ?
Mais je pense que, enfin, Histoire d'amour, bon, c'est déjà une pièce qui est quand même reliée à, bon, à l'influence de Duras. Hein, je pense que ça, c'est assez net.
Vous ne faites pas partie des gens qui disent que Lagarce, c'est du sous-Duras.
Mais non, bien sûr que non.
C'est du sur-Duras. Qu'est-ce que c'est ?
Je ne sais pas. Mais non, mais c'est vrai que ce qu'il faudrait préciser ici, pour ceux qui connaissent peut-être pas très bien Lagarce, c'est, et ce qui m'a, moi, fasciné quand je suis entrée dans l'écriture de Lagarce, c'est le fait qu'il écrit, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants d'ailleurs dans le master création littéraire où je travaille, j'essaie de les former à l'écriture dramatique, mais en leur montrant aussi qu'un auteur comme Lagarce, il va écrire, il va apprendre à écrire en imitant les autres et en rentrant dans l'écriture des autres. Et c'est pour ça que son écriture est une réécriture, c'est un exercice constant de réécriture.
Alors, parce que si c'est un très grand lecteur.
Bah, évidemment, c'est un très grand lecteur et donc c'est une réécriture des œuvres des autres, mais en même temps c'est une réécriture de ses propres textes à lui. Donc c'est une réécriture permanente, à la fois externe et interne.
Mais, et là, on l'a bien entendu dans l'extrait et puis dans l'entretien juste avant. Finalement, l'un des grands intérêts de Lagarce, c'est comment est-ce qu'on fait pour écrire du théâtre contemporain. Qu'est-ce que c'est qu'écrire du théâtre contemporain ?
Oui, mais en l'occurrence ici, c'est réécrire, puisqu'il y a eu deux versions de la même pièce ici. Mais je crois que la notion de la mise en abîme de l'écriture, ça, c'est très contemporain. Et ça parcourt l'œuvre de Lagarce. C'est ces personnages qui écrivent. Alors là, on était dans la première partie de son œuvre, hein, c'est-à-dire qu'avec Histoire d'amour, on est vraiment dans. Il assume totalement des personnages d'écrivains qui sont sur scène, qui parlent de l'écriture, bon, qui assument aussi le rapport qu'ils ont avec les personnages qu'ils créent dans leur écriture, parce que à un moment. Il y a un moment où la femme va dire à l'homme qui écrit, elle va lui dire que l'histoire qu'il a écrite est finalement plus crédible que leur histoire réelle. Elle lui dit j'ai lu que j'étais dans le livre, j'ai lu que je suis dans le livre et je ne comprends pas tout. Et pourtant, cela me parut plus exact encore que ce qu'avait été la réalité que nous avions vécue. C'est ça qui, enfin la mise en scène de l'auteur en train d'écrire dans le livre et qui est avec ses propres personnages, ça fait partie d'une démarche qui est très contemporaine.
On peut appeler métathéâtrale.
Voilà, c'est ça. Hein. De toute façon, il y a deux axes qui sont tout le temps intéressants pour aborder la gare. C'est la métathéâtralité, mais aussi, il y a le métalangage, ça c'est autre chose. Bon, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure en parlant du rapport au langage. Mais ce qui est, par contre, dans les premières pièces...
Qu'est-ce qu'on pourrait dire, pardonnez-moi, sur cette idée de métathéâtralité, peut-être pour les lycéens notamment qui vont devoir plancher sur la gare. Est-ce que vous pourriez donner une ou deux idées qui pourraient leur être utiles ?
Eh bien, c'est que y avait cette idée pour la Garce que il faut assumer la convention théâtrale quand on est sur scène, c'est-à-dire que il disait tout a déjà été répété, les acteurs sont là, mais ils sont des acteurs, ils ne sont pas les personnages. Donc cette idée qu'il y a tout le temps une distance, que ce qui est sur scène c'est quelque chose qui est joué. C'est ce qu'on appelle la chute du quatrième mur, c'est-à-dire bon là c'est ce mur qui sépare la scène de la salle. Il y a toujours quelque part une adresse au public. Le public est toujours quelque part à l'intérieur prévu à l'intérieur du processus de représentation.
Et parfois je me sens impuissant, inutile, dans l'incapacité de tout. Restant là, ne plus pouvoir faire ou dire, être aveugle et sourd et imbécile encore, silencieux de ma propre imbécilité. Attendre et subir mon impuissance. Être démuni et devoir renoncer.
être immobile, dans l'incapacité de prendre la parole, de prolonger le discours, de répondre, de dire deux ou trois choses imaginées dans la solitude et qu'on pensait essentielles. Et parfois, je me sens inutile devant le monde, ce que dit la rumeur, l'arrogance omniprésente de la rumeur. Ne pas le comprendre, ne pas le comprendre ou ne pas l'admettre. L'imaginer autrement, savoir qu'on doit, qu'il est de mon devoir, se dire ces mots-là, le devoir. Savoir qu'il est de mon devoir de le dire d'une autre manière et ne cesser pourtant de buter contre ses reflets.
Alors Lagarce ne cesse d'exprimer des doutes sur son propre talent, comme on vient de l'entendre dans cet extrait lu par Guillaume Depardieu de son recueil de textes intitulé « Du luxe et de l'impuissance ». Vous dites que le sentiment de l'échec chez lui ne réside pas seulement dans la traditionnelle perte de l'inspiration, mais dans la difficulté à saisir le réel et dans la difficulté à avouer, Lydie Paris.
Oui, si vous voulez, je crois que c'est une écriture qui est tout le temps en tension, l'écriture de Lagarce, parce que cette notion d'impuissance, elle est paradoxale, parce que on la trouve dans la littérature, par exemple, déjà chez Dubélé, hein, on la trouve chez Baudelaire, on la trouvera aussi chez Beckett, qui disait rater, rater mieux encore, hein. Mm-hmm. Alors, cette impuissance, il faut comprendre qu'elle est quelque part liée à une recherche frénétique de réaliser le langage quelque part. Elle tend à réaliser le langage, tendre vers la perfection du dire quelque part.
Est-ce qu'il y est parvenu selon vous?
Je ne pense pas. Je pense que c'est une recherche. Il tend vers quelque chose, mais il n'y arrive pas parce que le langage échappe, parce que de toute façon, il y a une impuissance à exprimer. Et si vous voulez, écrire, c'est aussi une forme d'exercice d'humilité.
On a évoqué tout à l'heure Tchekhov, Villiers de l'île d'Adam. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler un petit peu de Kafka parmi toutes les influences, plus ou moins proches, plus ou moins lointaines de Lagarce, Lydie Paris?
Mais bien sûr, c'est sûr que Kafka, lui, il était engagé dans une ascèse. Oui, je crois que c'est le mot de ascèse qui convient bien pour définir le projet de Lagarce. Mais si vous voulez, Kafka, il vivait dans cette idée que chaque mot qu'il utilisait faisait partie d'un stock qui allait s'épuisant de jour en jour. Il puisait dans un stock et ce stock allait réduire. C'était complètement fou le rapport qu'il avait au langage, quoi. Mmh.
Parmi d'autres noms qu'on pourrait encore citer, Ibsen, est-ce que c'est un nom que vous également vous aimeriez mettre en lien avec Lagarce? Lydie Paris, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Eh bien, peut-être pas. Je vous propose d'écouter, pour presque terminer cette émission et en attendant de retrouver Lydie Paris, un dernier extrait qui va nous permettre d'aborder, si on a le temps, la question de la mise en scène.
On a toujours tendance à penser que c'est très dur de se mettre en scène soi-même, ce qui n'est pas si exact, parce qu'il y a des textes de moi que j'ai mis en scène, je pense que... pas plus mal que d'autres et pas moins bien, et puis j'étais tout aussi bien, mais j'étais en même temps dans un bon travail de metteur en scène face à ces textes-là. Puis sur d'autres textes, non. Donc il n'y a pas de règle par rapport à ça. Mais et puis il y a des grands auteurs qui se mettent très très bien en scène, mais après le travail passe de l'un à l'autre. Il y a des points communs quand même. C'est-à-dire, il y a une grande solitude de la mise en scène quand même, oui. De l'écriture sur le plateau avec les gens.
Je comprends. Je crois que vous n'écrivez pas pour des acteurs au départ. Tant que vous avez écrit, on ne peut pas dire qu'on a assisté à la vraie naissance de ce que vous avez écrit. La vraie naissance, c'est quand elle est prise en charge par les acteurs, ou pas ?
Non, je crois pas. Je crois que j'ai écrit des textes, et puis après, il y a des spectacles. Mais il y a des choses que j'ai écrites, il n'y aurait pas de spectacle, ce serait écrit quand même. Enfin, d'accord. Ce serait présent quand même.
Ça existerait quand même ?
Bien sûr, ça existe quand même.
Et ça vous manque pas, le plateau ?
Ça me manquerait moins maintenant qu'avant. J'ai un peu l'impression qu'avant, quand j'écrivais du texte, c'était vraiment pour être joué, point final. Et puis maintenant, non, ça me paraît pas... D'abord, peut-être parce que j'écris des textes qui, au fond, c'est du théâtre, parce que j'ai dit que c'était du théâtre, mais après tout, ils peuvent être aussi... Ils pourraient peut-être après tout être lus. Voilà, comment, je sais pas, Musset, théâtre... Peut-être dans son fauteuil, voilà, oui. Pourquoi pas. Walking through dark streets, the cold is looking for
some way. Alors Lydie Paris, je ne sais pas si vous avez pu entendre cet extrait d'archives, mais je ne sais pas si vous avez mis en scène vous-même la garce. En tout cas, je ne crois pas que vous l'ayez fait. Pour quelle raison ?
Excusez, j'ai pas entendu le début de votre question.
Est-ce que vous avez mis en scène vous-même, parce que vous êtes metteuse en scène, est-ce que vous avez mis la garce en scène ?
Non, je l'ai pas mis en scène. Alors la compagnie a monté plusieurs pièces avec la compagnie, enfin avec le groupe d'amateurs, oui. Mais moi, je n'ai jamais mis en scène la garce. J'ai mis en scène Beckett, Novarina.
Mais pourquoi ? Est-ce que c'est pas... plus difficile ? Enfin, il y a quelque chose qui vous effraie dans le texte de la garce ?
Absolument pas. C'est que c'est arrivé à un moment mon goût pour l'écriture de la garce où on s'était concentré sur la mise en scène de mes propres pièces. Et c'est vrai que depuis 2015, j'ai eu une grosse commande. C'était à Toulouse. J'avais 3 pièces d'un coup à mettre en scène. Et depuis,
Ça arrivera peut-être, alors Lydie Paris, on guettera ça quand même. Est-ce que vous diriez, ce sera ma dernière question, que c'est devenu aujourd'hui un classique du XXe siècle ?
Oui, bien sûr, on peut le classer dans les écrivains, les classiques contemporains, hein. C'est une étiquette qui lui est souvent attribuée, hein. Oui, bien sûr. Oui.
Et d'ailleurs, le fait que beaucoup, beaucoup de jeunes compagnies aient envie de jouer du Lagarce semble indiquer que, en effet, il a atteint ce niveau de classique du XXe siècle et que finalement il fait un théâtre qui est aujourd'hui un théâtre assez universel. Merci beaucoup Lydie Paris, pardonnez-nous pour ces problèmes de connexion. Difficile de citer de nouveau tous vos livres, ils sont très nombreux, je me contenterai de rappeler celui que vous avez fait paraître chez Classique Garnier et qui est peut-être le plus lié à l'émission d'aujourd'hui. Il s'appelle La Garce, un théâtre entre présence et absence. On peut également signaler Les voies négatives de l'écriture dans le théâtre moderne et contemporain aux éditions Lettres modernes Minard. Puis je voudrais dire un mot avant qu'on ne se quitte au sujet de la revue Critique que nous aimons beaucoup ici à la Compagnie parce que d'abord c'est une grande revue littéraire francophone de référence et aussi signaler qu'elle souffre, comme beaucoup d'autres, de la période que nous traversons tout en continuant à publier des dossiers particulièrement intéressants. Comme par exemple celui de ce mois-ci, il est consacré à Claude Romano, c'est l'un des chefs de file de la phénoménologie française qui vient de publier chez Gallimard plusieurs livres, dont un ouvrage considérable intitulé « Être soi-même, une autre histoire de la philosophie ». Il publie en outre en janvier un livre sur la couleur intitulé sobrement « De la couleur ». Et donc la revue Critique se penche sur lui tout au long d'un dossier qui s'intitule « Claude Romano, un phénoménologue au cœur du réel ». N'hésitez pas à vous procurer ce numéro et à découvrir Critique pour ceux qui ne connaissent pas encore cette publication. Et dans un instant sur France Culture, on retrouve l'émission scientifique.